Est-ce qu'on avait besoin de, puis c'est la ministre Caroline Proulx au tourisme qui a annoncé aujourd'hui des mesures pour former davantage ceux qui sont les guides en motoneige. Est-ce qu'on devrait former davantage les motocyclistes ou les motoneigistes plutôt qui viennent de France ou d'ailleurs dans le monde entier qui sont à leur première expérience en motoneige au Québec? La question, je vous la pose à 376-1069. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe actuellement?
Ben moi, Robert, je pense qu'au ministère du Tourisme, là, elle est sortie ce matin, la ministre, en réaction à l'accident qui vient de se produire au lac Saint-Jean. Mais c'est quelque chose, c'est une réflexion qui se passe au ministère là depuis, je dirais, moi j'étais là puis on en parlait. On essayait de trouver quelle était la meilleure avenue, la meilleure piste de solution qui pourrait... Parce que c'est important de le dire, hein, parce que la personne, d'abord, il y a plusieurs organisations, que ce soit les pourvoiries, il y a des clubs là, qui louent des motoneige et qui on est accompagné d'un guide. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce guide-là connaît bien le territoire où il amène les touristes ou les gens qui louent des motoneiges? Est-ce qu'il est formé, Robert, notamment en RCR, donc réanimation cardio-respiratoire? S'il arrive quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, es-tu capable, lui, ou quelqu'un qui tombe à l'eau puis qui a besoin d'avoir la respiration artificielle? Est-ce que ces gens-là sont formés tant au niveau santé qu'au niveau du territoire? Est-ce qu'ils connaissent bien les sentiers? Est-ce qu'ils connaissent bien les endroits qui sont dangereux, où on ne doit pas circuler, où c'est important que les gens qui nous accompagnent.
Mais ça me semble que c'est simple, là. Okay, je le dis à Jean-François Houle de chez Maximum, le dit depuis des années, demeurez dans les sentiers, sortez pas de là. Jean-François Houle, je ne sais pas si tu l'as entendu tantôt, il y a toujours des têtes folles qui se pensent plus grands encore que le moniteur en question ou que le sport en question, qui arrivent de France, ils sont riches, ils ont payé 5 000, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire, je connais ça, ça fait 4 fois que je viens au Québec, c'est pas toi qui va me montrer. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, le guide, dans ce temps-là?
Bien, Robert, de toute évidence, ce qui vient de se passer là, au lac Saint-Jean, c'est pas rien de ce que tu décris. De toute évidence, c'est pas une tête folle qui est partie toute seule, c'est pas un cas isolé. Ils sont allés sur un lac avec une portion où ça ne gèle pas, l'eau coule, et ils voient les traces de motoneige, se rendent direct dans l'eau, et ils étaient avec un guide. Donc, de toute évidence, le guide les a emmenés dans ce secteur-là, là, Robert. On parle pas d'un cas isolé, on parle pas d'une tête folle.
Mais le guide était pas en arrière, lui. Le guide a réussi à... Il est mort ensuite, là.
Il est décédé, lui, avec moi, mais Robert, au lieu de faire le détour, ils ont voulu raccourcir le temps. Et écoute, je comprends, là, mais le guide, là, il faut qu'avant de partir, il montre une carte aux gens qui embarquent avec lui puis qui leur dit, écoutez, on suit les sentiers balisés. Ça, c'est la règle numéro un. Et deux, en aucun temps, on ne circule sur les rivières ou les lacs à tel endroit. C'est de toute évidence, là, ils sont cinq, là, Robert. C'est pas un cas isolé. C'est pas un motoneigiste qui a décidé de partir en fou tout seul de son bord. Tout le monde voit, là, on le voit à la télé, les traces de motoneige qui se rendent directement dans l'eau. Alors, puis en plus, Robert, dans ce cas-ci, on parle d'un guide qui est expérimenté, un homme qui fait ça, qui fait ce travail-là depuis de nombreuses années, qui est censé connaître bien le territoire, même si c'est quelqu'un qui réside, qui a un appartement à Montréal. On dit que c'est quelqu'un qui était sage, qui était rigoureux, qui se conformait normalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce que le gouvernement du Québec, toi qui étais ministre du Tourisme, on te tend en opération sauvetage pour faire le moins de mal possible à cette industrie qui génère des centaines de millions de dollars en retombées économiques au Québec?
C'est ça le défi. Le défi, c'est trouver comment on prévient ce genre d'accident-là sans nuire à l'économie du Québec, sans nuire à l'économie de la motoneige. Oui, c'est vrai qu'il faut imposer des règles peut-être plus rigoureuses aux organisations qui louent des motoneiges. Mais c'est important parce que si on ne le fait pas, Robert, là, des accidents comme ça vient d'arriver, là, je ne pense pas que ça donne une belle vitrine pour la motoneige au Québec. Hein. Je pense qu'au-delà des sous, là, je ne pense pas qu'on va attirer des touristes en disant bon, on vient d'en perdre 5 là, parce que...
Puis deux l'année passée là, à Saint-Alexis, c'est pas loin.
Alors, écoute, ça ne donne pas une belle tribune, une belle vitrine à l'industrie de la motoneige au Québec. Donc, moi, je pense que oui, il faut imposer des choses, même si ça ne fera pas nécessairement plaisir aux organisations. Il faut être plus rigoureux dans toutes ces organisations-là.
Au téléphone à 376-1069, je viens d'avoir une dépêche qui vient de tomber. Avant de parler à Christian, bougez pas, Christian. Parce que moi, je vous disais, il y a quelques mois de cela, je vous disais, tu sais, le Colisée, là,
oui.
Il nous parlait d'un échéancier pour décembre. J'ai été effacé depuis, puis ça a été reporté. Il y en a qui m'ont contredit à l'époque. Bon, ben là, tu sais qu'après ça...
Il y a un autre échéancier, là.
Non, mais là, la Ville avait fait un point de presse en disant, bon, finalement, on ne sera pas prêt de te faire à temps, là, puis bon, on va reporter ça. Nous, on vient de recevoir un communiqué de la Ville. Peux-tu te le lire?
Bien, certainement.
OK, tu l'as. Une primeur. Voici la primeur. Alors que le chantier du nouveau Colisée progresse, la Ville de Trois-Rivières s'est entretenue avec l'entrepreneur groupe TEQ Tech pour reporter la date de livraison provisoire au 17 avril 2020. Ce délai à 6 semaines ne change rien à l'ouverture officielle qui est toujours prévue pour septembre 2020. C'est principalement l'installation des nouvelles bandes demandées au cours du chantier qui explique ce nouveau délai. La Ville se fait toutefois rassurante et confirme qu'elle aura le temps nécessaire pour effectuer l'ensemble des tests techniques et les possibles correctifs d'ici l'ouverture. Nous précisons que ce retard n'entraîne pas de frais supplémentaires pour la Ville et l'enveloppe budgétaire de 60 millions,6 de dollars pour le chantier est toujours respectée. Voilà. Donc, Christian, bonjour.
Allô?
Bonjour, Christian. Qu'avez-vous à dire?
Allô, ça va bien?
Ça va, on vous écoute?
Ben moi, je dirais qu'une formation, vous regardez, pas juste le monde de la France, ça serait des touristes de n'importe quel pays, puis même des formations pour du monde du Québec, parce qu'il y a du monde qui s'en vont à Croche et qui ne respectent pas les règles. Donc, je dirais c'est pour l'ensemble global de notre formation.
Bien, vous avez bien raison. Ben, écoute, il y a peut-être des gens qui font de la motocyclette qui nous écoutent, parce que moi, j'ai fait mon cours. J'ai mon cours parce que si je voulais conduire une motocyclette sur les routes, ça me prenait une formation. Et puis, c'est pas facile. Là, c'est une formation qui est quand même assez compliquée. En motoneige, corrigez-moi, puis il y en a peut-être à 376-1069 qui peuvent nous dire. Je pense que ça ne prend pas de cours ou de formation particulière.
Non, ça n'en prend pas. Mais au-delà de ça, Robert, moi, je peux être une adepte et pratiquer la motoneige si j'arrive dans une région que je ne connais pas. Alors, il y a des rivières, il y a des lacs que je ne connais pas. Alors, en partant, même si je connais la motoneige, je ne connais pas le territoire. Alors, moi, je pense que oui, ça prend une mesure... un encadrement.
Pas juste pour les touristes,
puis pas juste pour ceux qui n'ont jamais fait de motoneige. Je pense que pour tout le monde, quand on loue une motoneige, il y a une espèce de formation de base qui devrait être donnée sur mieux connaître le territoire, sur quoi faire si la personne qui était avec nous sur un autre motoneige a un accident, tombe à l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y tire une bouée? Est-ce qu'on doit se glisser? Moi, je pense qu'il y a des mesures de sécurité qui sont impératives. Il y a des instructions qu'il faut donner à ces gens-là. Moi, je pense que c'est incontournable.
Merci beaucoup.
Parfait, merci.
C'est quand même une belle observation ici, là, pour juste les touristes français. Tous ceux qui...
C'est tout le monde.
Tout le monde. Puis on devrait peut-être avoir une formation comme celle que l'on suit peut-être pour les motoneiges, les motocyclettes. Une courte pause. Vous voulez nous appeler. Les numéros vont suivre dans un moment. Et parmi ceux qui vont nous appeler aujourd'hui pour commenter l'actualité, tout de suite après la pause, on va parler, entre autres, de Machuré, de Jean Charest qui décide de ne pas aller remplacer le chef du Parti conservateur avec Julie, qui l'a bien côtoyé, qui l'a bien connu. Elle va nous donner son opinion là-dessus. Et parmi ceux qui vont nous parler aujourd'hui, on vous offre le plateau de dégustation du Super Bowl grâce à Fouquet Morel. À midi 29 minutes, on va parler de cette idée maintenant que l'aide médicale à mourir, on a gardé ça pour tantôt. On va y revenir dans quelques instants. On va parler de Jean Charest,
oui.
qui a décidé de ne pas se présenter à la course pour devenir le chef des conservateurs. Surprise?
Non. Bien, je te dirais, puis j'aurais pas détesté qu'il aille, là, pas parce que ça aurait fait une course en le ventre. Alors là, j'ai l'impression que s'il n'est pas dans le portrait, s'il n'est pas dans les candidats, on peut couronner Peter McKay, là, puis je pense que ça va être plate, puis je pense que M. Justin Trudeau doit être bien content. M. Trudeau, là, Justin doit être bien content que ça s'annonce comme, celle, comme ça, puis que ça ne soulèvera pas de vagues, ça ne soulèvera pas de passion, puis qu'il n'y aura pas trop de troubles quand M. McKay va arriver là, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a été... c'est pas quand il a déjà été chef, d'ailleurs, par intérim, là, et ce n'est pas quelqu'un qui avait fait miroiter des choses. Là, ça n'avait pas été extraordinaire. Là, c'était... Franchement, là, sincèrement, là, Justin doit être content. De pas, il n'y aura pas beaucoup d'adversité là-dedans. Bon, maintenant, pourquoi M. Charest n'est pas allé? Bien, écoute, il a expliqué que, bon, les délais étaient longs, les délais étaient trop courts. Excusez-moi, là, que les délais étaient trop courts pour ramasser. Je pense qu'il fallait qu'il ramasse 3000 signatures, quelque chose comme ça. Qu'il était heureux avec sa famille, que son travail lui apportait beaucoup de défis. Ah, écoute, toutes
est-ce
ces choses-là,
est-ce qu'il
on
nous
les
a dit la
vérité? Ouais,
mais
ben,
il nous a-tu dit la vérité?
Mais non, mais ça, c'est
le vent d'enfant. Avec toute l'histoire de Mâchuré.
Moi, je pense qu'il ne dira pas que... Bon, mais moi, je pense qu'il a réfléchi sérieusement. Lui, trop, il n'y a rien à se reprocher, comme il l'a dit. Il n'y a pas d'accusation. Ça dure depuis 6 ans. Puis on n'a pas porté d'accusation. Donc, en tout cas, de toute évidence, ils n'ont pas beaucoup de preuves contre lui. Parce que s'il y en avait eu des preuves, le DPCP les aurait portées. Puis il y aurait eu un procès.
C'est là que je veux t'amener.
C'est
okay?
ça.
Puis d'ailleurs, nos circuits sont ouverts maintenant à 376-1069. On vous offre le plateau dégustation du Super Bowl grâce à Fouquet Morel, mais... parmi ceux qui vont nous parler. C'est là que je veux t'amener. Okay? Là, Jean Charest, lui, a dit par la voix de son avocat, oui. Porter des accusations ou arrêter, là, t'sais, parce que là, moi, je suis un peu tanné. Sauf qu'hier, j'ai comme eu l'impression que le Parti libéral a commis une espèce de faux pas en disant à la police qu'elle avait affaire dans ce dossier-là, en disant « arrêtez d'enquêter sur le Parti libéral ».
Bien, moi, je pense que c'est un faux pas, je suis d'accord avec toi. Que M. Charest le dise, il n'est plus en politique. C'est un peu comme Nathalie Normandeau, c'est sa réputation. Ça fait comme 6 ans qu'il vit avec ce nuage-là au-dessus de sa tête. Il peut dire, bien, écoutez, là, qu'on aboutisse, qu'on fasse quelque chose. Si vous n'avez pas de preuves, bien, bon. Mais que le Parti libéral prenne cette position-là, puis aille défendre, puis dire, il faut qu'il y ait un point final. Faut... Là, moi, sincèrement, je regardais ça, puis je dis, oh mon Dieu, ils s'en vont où avec ça? Parce que je ne crois pas que c'était correct que le Parti libéral intervienne. Le Parti libéral n'a pas à dire à des policiers qui enquêtent quoi faire, comment le faire, puis quand est-ce terminé des enquêtes. Ça, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Et ça m'a d'autant plus étonné que Marc Tanguay, qui a porté ce message-là au nom des libéraux, est un avocat lui-même. Alors, il sait très bien qu'on ne peut pas intervenir dans le cadre d'enquête. Il est un élu, il est à l'Assemblée nationale, il est représentant du Parti libéral. Alors, le Parti libéral ne peut pas s'immiscer, ne peut pas ordonner, ne peut pas porter de jugement sur la façon dont on travaille. Il peut dire, on a hâte que ça finisse, on ne comprend pas que ça soit long, mais de là à dire, là, il faut régler ça, il faut mettre un point final. Trouver que, sincèrement, ce n'était pas approprié, mais nettement, ce n'était pas approprié. Si j'avais été là, j'aurais passé ce commentaire-là. J'aurais dit, écoutez, ce n'est pas à nous autres que M. Charest porte un tel message. C'est une chose, ça le regarde, c'est personnel, il n'est plus en politique. Mais comme parti politique, nous, on n'a pas à dicter le travail des policiers.
376-1069 pour vous sustenter d'un délicieux plateau dégustation de chez Fouquet Morel pour le Super Bowl. Denise, bonjour.
Hey, bonjour.
Qu'avez-vous
bonjour
à dire?
Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour,
oui,
Denise.
Ben
bonjour.
Moi, j'aimerais préciser quelque chose. Moi, j'ai entendu point de presse de comment il s'appelle, monsieur?
Tanguay.
Oui, merci. Remarquez qu'il ne sera pas sa première niaiserie. Mais bon, excusez, pas fait. Mais il y a un journaliste qui l'a fait préciser que, ben là, vous voulez faire arrêter ça. Mais non! Il dit, il faut que ça finisse d'un côté ou de l'autre. C'est pas la même chose, ça.
Non, c'est pas la même chose. Vous avez raison, Denise.
Ça, là, c'est plus la même chose du tout, du tout. Mm. Puis, suivez mon avis, là. Il l'a pas dit, M. Charest. Moi, je pense que Michou, elle a pesé dans la balance. Ils font une belle vie. Sont pas dehors, puis même si c'est un... une bête politique. Moi, j'ai l'impression que Michou a peut-être mis du poids dans la balance.
Moi, je suis d'accord avec vous, Denise. D'abord, Michou parlait, comment M. Charest nous le disait lui-même, que les opinions, les conseils de Michou étaient très importants pour lui, qu'il les prenait en grande considération. Elle était très impliquée dans sa carrière. Elle le suivait un peu partout. Elle connaissait très bien les dossiers. Mais moi, je pense que Denise avait raison en ce sens que c'est dur pour la famille d'entendre constamment les journaux, les télés, tu sais, cogner sur la tête de ton conjoint. Là, je pense que Michou, elle avait probablement, elle devait être bien écœurée, puis elle a dû dire, regarde, on n'a pas besoin de ça dans la vie. Puis on va passer à autre chose, puis on va trouver notre bonheur ailleurs. Moi, je suis d'accord
avec
vous.
Même ceux qui avaient déjà dit en boutade, il y a l'année passée, tu sais, s'il était au courant ou s'en était rendu, il dit non, je regarde les journaux.
Salut. Merci beaucoup, Denise.
Merci beaucoup. Salut.
Bonne chance pour notre fameux plateau de dégustation Fouquet-Morel. Moi, je suis monté, je fais une brève campagne électorale. Ma mère, ils nous font monter dans l'autobus. Je pense que tu étais là à ce moment-là. Puis elle était à côté de lui. Oui. Puis je me souviens qu'il était harcelé du côté de Sherbrooke. Puis j'ai assisté à ça. Des gens qui l'intimidaient sur le web. Là. Puis elle était là, puis elle en parlait. Puis c'est comme si c'était à elle qu'on faisait ça. Hein? Elle le prenait très personnel.
C'est ça. Et assurément qu'il a discuté de tout ça avec ses enfants, avec sa conjointe. C'est vraiment une décision de famille. Là. Ils ont décidé que s'il allait là, que toute cette pression-là médiatique de l'enquête Mâchurée ne lâcherait pas d'une seule seconde et que ses adversaires à la chefferie se serviraient de ça. Alors là, on en parle beaucoup au Québec. On en parle beaucoup moins dans l'Ouest. Au niveau du Canada anglais, c'est quelque chose que ça les intéresse moins. Sauf que là, ça serait devenu quelque chose qui aurait pris plus d'ampleur dans l'Ouest canadien. Alors, je pense que de vivre constamment avec ça, ça devient difficile sur le moral, ça devient épuisant. Puis d'après moi, son entourage proche lui ont dit, regarde, on comprend que tu aimerais ça, là, que ça fait partie de tes ambitions, puis que tu as toujours songé à ce poste-là, mais peut-être que c'est mieux.
OK, regarde bien ça. Mettons qu'il ne rentre pas par la grande porte, ça, c'est la grande porte. Il pourrait rentrer par la porte d'en arrière. Prochaine élection, on fait de la politique fiction. Il se présente comme candidat dans un comté sûr du Parti conservateur. Et là, le Parti conservateur prend le pouvoir. Il accède, bien sûr, au Conseil des ministres, une fonction importante dans le Conseil des ministres. Éventuellement, il pourrait regagner le cœur des conservateurs de cette façon-là. C'est-tu possible, ça?
Ben là,
son égo est trop surdimensionné pour passer par ce chemin-là.
Ben, je ne pense pas que c'est son égo qui est trop surdimensionné. C'est que ce que tu dis là, Robert, ça veut dire que ça prend encore 5 ans, 6 ans, 7 ans.
Oui.
Parce qu'il va avoir un chef, là, quand même, qui, mettons, qui est élu, qui est ministre. Il y a un chef qui va être là, oui, qui va prendre le pouvoir, qui va être... S'il devient ministre, c'est que son chef va devenir premier ministre. Alors, la succession de ce personnage-là, hey là, Robert, t'es plus d'une perspective à court terme, là.
OK. C'est pour ça que je te parle de politique fiction.
C'est autre chose.
376-1069. Patrick, bonjour.
Oui, bonjour à vous deux.
Bonjour, Patrick.
Moi, je pensais à ça quand tu parlais, Julie, je me disais, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme qui disent, lui, je pense que c'est sûr qu'elle a eu un mot à dire là-dedans. Là. C'est sûr que tu n'as pas le goût déjà que tu as entendu parler de ça pendant je ne sais pas combien d'années. Il y a un livre qui est sorti. Puis le fait que tu aies appelé un ex-premier ministre qui dit en plus qu'il va faire tout pour pas que tu passes et que tu rentres là. Je pense que ça a tout le melting pot qu'on dit là, comme en anglais, je pense que ça fait en sorte qu'il a pris cette décision-là avec la famille un peu, là, parce que quand t'appelles Stephen Harper puis qu'il dit non, moi je t'appuie pas, puis je pense que ça a pris ça doit avoir eu beaucoup un grand effet sur sa décision.
C'est sûr qu'il faut toujours mesurer nos chances de gagner, mesurer nos appuis. Évidemment, les gens comme M. Harper puis M. Scheer sont des gens beaucoup plus à droite, beaucoup moins progressistes. Alors, eux autres, la venue de M. Charest, c'était peut-être pas une bonne nouvelle pour eux, parce que dans l'Ouest canadien, la tendance du Parti conservateur est beaucoup plus à droite, alors que nous, au Québec, on est plus progressistes, plus ouverts dans tous les domaines sociaux, que ce soit le mariage gay, toutes ces choses-là, l'avortement. Alors, nous, on est beaucoup plus à gauche là-dessus, beaucoup plus ouvert. Alors, ça faisait sûrement pas l'affaire des conservateurs qui sont dans l'Ouest canadien.
Hey, merci,
toi,
Patrick.
Julie, ça te tentait pas, Julie?
Oui. Non, c'est sûr que non.
Hein?
C'est certain que non.
Non, mais pertinente votre question, Patrick. On va la prendre
c'est
tous
gentil,
les deux.
Patrick.
Tous les deux, Patrick. Toi
bon.
Et moi, on va la questionner là-dessus. Ça va?
C'est OK. Gentil.
Alors, donc. OK. Donc, Julie, non, mais toi, la politique, Fini.
Ben, écoute, je peux pas dire fini. Pour l'instant, je te dirais oui, mais bon, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, c'est sûrement pas dans mes plans, Robert.
Non. Mais tu... Non. Ouais. OK, Patrick, ouais, vas-y, c'est à ton tour.
Non, mais c'est ça. Moi, il me semble que t'aurais été fière d'être la première ministre féminine là, au Canada.
Non, mais ça m'intéresse vraiment pas, Patrick. Ça sera pas okay. Moi.
Salut.
Bye. Okay, bye.
Il y a Danny qui nous écrit. Danny dit « Aucune preuve n'est retenue contre M. Charest, mais l'inverse est aussi vrai », nous dit Danny. Et il dit qu'il l'aime pareil. Bon. Non, mais tu comprends-tu?
Il y a
la présomption d'innocence,
ouais.
Puis il y a la présomption de culpabilité. C'est ce qu'il veut dire.
Bon, oui, mais la présomption de culpabilité, ça n'existe pas. Là,
non, mais tu comprends-tu, c'est ce qu'il veut dire.
C'est ce qu'il vit, M. Charest.
Ouais.
Mais ça n'existe pas dans les règles de droit du Québec. Là. Il y a une présomption d'innocence. Puis...
Non, mais tu sais, c'est ouais. L'expression qu'on, parlons, ou peu importe ce qu'on va en dire, il en restera toujours quelque chose
puis,
à la fin. Là.
La perception en politique, c'est même si les règles de droit ne disent pas ça, mais en politique, cette règle-là, elle est très présente, même si même si ça ne respecte pas les lois, mais c'est très présent et ça peut nuire énormément à des personnages qui ont des ambitions politiques de cette nature-là.
C'est Jacques qui nous écrit, que je salue via le 98-98-5, qui dit qu'il continue à enquêter, peu importe ce que dit M. Charest, ou sinon, qu'il fasse comme la famille Bété, pas certain qu'il va le faire, nous dit Jacques. Dans le fond, ce que la famille Bété poursuit, je pense, le procureur ou le gouvernement, dans l'histoire, bon, est-ce qu'il pourrait faire ça éventuellement? C'est-à-dire, sans les menacer, dire là, à un moment donné, assez, c'est assez, vous attaquez ma réputation, ma qualité de vie, ma carrière aussi, en quelque sorte, je pourrais éventuellement les poursuivre. Est-ce qu'il pourrait faire ça, M. Charest?
Je ne sais pas, j'ose penser que oui, Robert, on en avait parlé l'autre fois, mais d'après moi, il faut qu'il attende les conclusions de quand l'enquête sera terminée. J'imagine que là, on verra quelles seront les conclusions. Puis si c'est des conclusions, en bout de ligne, s'ils n'ont rien, puis que peut-être que M. Charest a des recours. Je ne suis pas avocate. Il faudrait demander à François Vigeant, là, mais s'il y a des recours, je pense qu'il va les utiliser. Écoute, c'est difficile à vivre, ce qu'il vit là, tout comme pour Nathalie Normandeau. Là, c'est difficile et je ne crois pas, là, peu importe ce qu'ils ont fait ou les gens, ce que vous pensez à la maison, essayez de vous mettre un petit peu dans ce scénario-là. Puis je pense que pour les individus, pour leur famille, pour leurs proches, ça doit être invivable, insoutenable. Puis écoute, c'est que ça s'éternise. C'est ça qui est malsain. C'est que ça s'éternise.
Il y a Danny qui a voulu préciser quand il disait « Je vous aime pareil », je pense qu'il parlait de toi puis moi.
Ah, OK.
Il ne parlait pas de Jean Charest.
Ah, d'accord, OK. Là, c'est pour ça que je ne comprenais pas trop. Là.
À midi 48 minutes avec Julie, on va parler à un brin d'aide médicale à mourir. Et c'est drôle parce que dans un petit moment, on va parler avec, je sais qu'il y a Pierrette qui veut nous parler, ne bougez pas Pierrette, l'aide médicale à mourir. Oui. Moi, j'ai comme l'impression que ça sonne. Là, on a enlevé l'espèce de cinquième critère
qui
de fin de vie imminente.
Une fin de vie imminente, ouais, bon. C'est ça. En fait, moi, je pense que ça s'adressait davantage, Robert, là, mettons, aux gens qui ont des problèmes de dégénérescence cognitive, puis que, mettons, moi, je fais de l'Alzheimer, puis que je veux être certaine que... Parce qu'à l'heure actuelle, il faut que tu aies une fin de vie imminente, puis il faut que tu sois capable, il faut que tu sois consciente le moment où ça arrive pour dire oui au docteur, je suis prête, je suis décidée. Alors que les gens qui sont en perte d'autonomie parce qu'ils ont la maladie d'Alzheimer, ils arrivent à une étape, Robert, où ça ne les fait pas nécessairement mourir à court terme.
Mais tu pourrais donner un mandat. Tu pourrais donner un mandat à tes proches de dire eux vont décider que la vie est terminée.
Moi, je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Quand on ne reconnaît plus nos proches, quand on n'est plus capable de s'alimenter, quand on n'est plus capable... J'imagine qu'il y aura des critères associés à ça, mais au moins, on élimine la fin de vie qui est imminente, puis on élimine aussi le fait qu'il faut que je sois capable d'être consciente puis de dire au médecin que je suis prête puis que je suis d'accord.
Mais ça, là, c'est du suicide assisté. J'ai envie de mettre un terme à ma vie. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore. Ma vie est imbuvable. J'ai des problèmes de dépression à répétition. Je pense que je suis schizophrène.
Non, bien là, médecin... tu mêles deux choses, là, Robert. Moi, pour ce qui est des gens qui sont en perte de... comme quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, moi, je suis d'accord avec le fait qu'on ouvre la possibilité de...
Oui.
Puis qu'on encadre. Mais là où toi, tu vas, c'est que le gouvernement du Québec a dit, le fédéral vient d'ouvrir une porte où on élimine la mort imminente qui est à venir. Le gouvernement du Québec a dit, il faudrait regarder aussi pour les troubles mentaux.
C'est ça.
Et là, les troubles mentaux puis la maladie d'Alzheimer, pour moi, c'est comme deux affaires différentes.
Bien, Doc Mailloux, tantôt, a dit que ça ressemble pas mal. C'est des problèmes de santé mentale.
Moi, je pense que la personne qui est en maladie d'Alzheimer n'a pas de chance de revenir bien. Elle n'a pas de chance que des médicaments puissent la soigner puis faire en sorte qu'elle maintienne son autonomie.
Mais tu peux quand même avoir une belle qualité de vie. Parle à Nicole Poirier de chez Carpezem. Elle va te le dire.
Le temps qu'ils ont une belle qualité de vie, il n'y a personne qui parle de les faire mourir.
Ouais.
On dit que quand ils arrivent à un moment où ils ne reconnaissent plus les gens, où ils ne sont plus autonomes, ils ne sont plus capables de s'alimenter, peut-être que ces gens-là souhaitent passer à autre chose. Moi, je suis de ceux-là. Ma mère a vécu l'Alzheimer, ma grand-mère a vécu ça. Puis moi, j'espère que si ça m'arrive, qu'un jour, j'aurai cette possibilité-là. Maintenant, moi, Robert, pour ce qui est des troubles mentaux, c'est autre chose. C'est autre chose. Et je pense qu'au Québec, on ne met pas suffisamment ni de ressources financières, ni de ressources humaines pour aider les gens qui ont des problèmes mentaux. Alors, c'est vraiment un problème grave au Québec. Ces gens-là ils sont pas capables de trouver des psychiatres pour les soigner. En pédopsychiatrie, on n'est pas capable de trouver des pédopsychiatres pour les jeunes enfants. Alors, il y a un problème vraiment, vraiment présent au Québec, tant en termes de ressources, il manque d'argent, puis il manque aussi de professionnels qui sont dédiés à cette cause-là, puis qui accompagnent les malades qui ont des troubles mentaux.
376-1069. Pierrette avait un petit mot à dire. Elle est hors d'ordre, mais on va l'entendre tout de même. Pierrette, bonjour.
C'est cute.
Bonjour. Bonjour à vous
bonjour,
deux.
Bonjour, Pierrette.
Bonjour, Julie. Vous avez mentionné tout à l'heure Laurent Duvernay-Tardif, parce que moi, j'ai été mariée avec un Tardif, puis j'ai toute la documentation sur l'ancêtre de la famille Tardif.
Ah oui,
est-ce que c'était parent avec vous?
C'était parent avec mon mari.
Oui.
De plusieurs générations, parce que l'ancêtre, il vient, c'est un Breton, hein. Il est arrivé ici en 1623, puis il devient rapidement un notable, puis il accompagnait Champlain parce qu'il a vécu ici, puis il maîtrisait les langues algonquines, huron et montagnan.
OK. Bon.
Et puis c'est un colosse à peu près dans la trempe de M. Laurent.
Il y a de la génétique.
Moi, j'ai un fils qui mesure 6 pieds et 2, puis j'en connais dans les Tardifs. C'est déjà assez bien costaud aussi. Puis la devise de la famille Tardif, c'est fidèle, loyal et juste. Puis sa dépôt immortelle est à Château-Richer.
OK, c'était intéressant, ça.
Puis Mme Pierrette, est-ce que vous suivez un peu la carrière de Laurent?
Ben oui.
Ah, c'est
mon fils qui me l'a fait connaître une fois dans le temps que mon mari vivait, t'es arrivé ici. Il dit, Laurent Duvernay, Tardif, ça vous dit quelque chose? On disait non. Et puis là, je suis pas une amatrice de football comme vous, là, mais je vais l'écouter c'est moi ça. Aussi le 2 février, juste pour voir Laurent avec son numéro de...
Souviens, le 76, quand est-ce qu'il 76, est sur le jeu?
Puis il a fait des études en médecine. C'est un monsieur qui a de l'allure, ça.
Tout à fait.
Hey, merci beaucoup d'avoir téléphoné. Très, très instructif.
C'est un bon ambassadeur pour le Québec.
J'ai beaucoup de documentation sur la famille Tardif.
Donc, je sais pas. Là,
c'est intéressant.
Invitez-le chez vous. Il va sûrement se déplacer.
Je ne sais pas comment faire pour le rejoindre. J'aimerais ça lui faire partie de tout ce que j'ai comme documentation.
Il y a une fondation qui existe, entre autres. Ils sont faciles à contacter. Oui. Utilisez les réseaux sociaux, ma chère. À bientôt.
OK, merci. Au revoir.
Pierrette. Bye bye, Pierrette.
Au revoir.
Voilà tout. Qui sait, peut-être, Laurent ira souper chez elle avec le trophée Lombardi. C'est bien.
Vince Lombardi, puis vous savez que c'est une trifluvienne qui s'occupe de la fondation Laurent Duvernay-Tardif, Marie-Christine Boucher, la fille de Michel Boucher. Michel, qui est dépisteur pour le Lightning de Tampa Bay, impliqué dans le monde du hockey depuis de nombreuses années. Mais c'est bel et bien Marie-Christine qui s'occupe de la fondation Laurent Duvernay-Tardif.
Là, je vais t'amener sur encore un petit peu de politique. Plamondon a décidé de se lancer pour devenir le chef du PQ. Le PQ qui ne fait pas beaucoup parler de lui de ce temps-là. Écoute, je ne sais pas si sa stratégie est bonne, là, mais il a dit aujourd'hui, ou hier, il a déclaré que lui-même, comme chef, dans un premier mandat du PQ, il va faire un référendum sur la souveraineté. Là, j'ai dit, bon, tirer dans ses goals, c'est exactement comme ça que je ferais, moi.
Ben, en fait, ça arrive souvent, c'est comme ces scénarios-là, Robert, se reproduit souvent au PQ. Il arrive toujours un candidat, tu te rappelles, PKP, qui est arrivé à l'élection, puis avec le poing en l'air, puis on va faire Québec ça indépendant.
Ça pogne plus de parler de ça pour le PQ.
D'ailleurs, ils ont perdu à cause de ça. Demande à Pauline Marois, là, deux semaines de l'élection, là, quand il a levé son poing en l'air, ils ont perdu l'élection.
La partielle à Québec, c'est là, ça. OK, ils ont tenté ça, l'approche souverainiste, là.
Avec pur et dur.
Ils ont mordu la poussière, à Québec, dans la partielle. Il n'y a pas longtemps.
Alors, souvent, ils ont ce discours-là, Robert, pour ramener les ouailles perdues, là, égarées. Là.
Okay,
ils veulent ramener les purs et durs,
oui.
Les gens qui ont des convictions profondes d'un Québec indépendant. Alors, ils veulent ramener ces troupes-là auprès d'eux, parce que là, ils en ont perdu quelques-uns qui sont allés se réfugier à Québec solidaire. Alors, ils veulent vraiment ramasser tout ce qu'ils peuvent ramasser de militants péquistes, mais sauf que peut-être que c'est bon pour l'élection d'un chef, mais quand arrivera une élection au provincial, ce discours-là, pour l'instant,
ben non,
le Québec n'est plus là.
Ça ne pogne pas partout.
Le Québec n'est plus là, mais plus du tout.
Même le Bloc québécois à Ottawa en parle pas presque pas.
C'est ça.
Eux autres, ils défendent les intérêts du Québec.
Puis les jeunes aujourd'hui, Robert, là, ouais, sont ouverts sur la planète entière. Là.
C'est ça.
Ils ne sont pas là, mais pas du tout. Là. Alors, ce sont une génération qui vieillit, qui les suit, mais de moins en moins.
J'ai comme l'impression que l'Ouest canadien va avoir un mouvement séparatiste avant longtemps plus fort que celui du Québec.
Ça pourrait être possible parce que l'Alberta, puis ben en fait, c'est de moins en moins vrai, mais l'Alberta, la Colombie-Britannique disent, ben nous autres, on paye de la péréquation pour le Québec. Si le Québec veut se séparer, ben l'Alberta, puis l'Ouest canadien, on appelle ça un Wexit, là, je sais pas trop. Alors, c'est discuté là-bas, là. C'est pas nécessairement des mouvements qui prennent beaucoup d'ampleur, mais c'est des sujets ça se discute là-bas, ça se discute.
Un autre sujet, je ne sais pas, je pense que ça ne doit pas intéresser beaucoup l'électeur moyen, mais comme toi, tu tripes sur la politique, je vais te poser la question, la dernière de l'émission en ce qui te concerne, mais l'histoire de réformer le mode de scrutin, là, OK? Là, on fait des assises à Québec, tout le monde est assis autour de la table, puis là, la proportionnelle, puis bon, les grands représentants de chacun des comtés, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Est-ce que le parti de M. Legault nous mène en bateau avec cette histoire-là en disant on va le faire parce qu'on avait promis de le faire, puis éventuellement, quand viendra le temps de le faire, on dira que c'est pas possible de le faire.
En fait, ils l'avaient promis, puis là, ils sont un peu pris avec une promesse que s'ils l'avaient mis en place pour la prochaine élection en 2022, là, si on regarde ce que ça donnerait, bien, la CAQ ne serait pas au pouvoir. OK? La CAQ, elle ne serait pas au pouvoir. Alors, là, ils essaient de faire une réforme du mode de scrutin à la proportionnelle, mais ils essaient de compenser les lacunes, donc, de ce que ça pourrait donner, en donnant plus de représentation aux régions, notamment la Mauricie, le centre du Québec et l'Outaouais auraient un député de plus que ce qu'on a actuellement. Après ça, il y a un pourcentage aussi de députés. Il y aurait 42 députés à peu près sur les 125, là, que ce serait des représentants régionaux, des députés régionaux plutôt que des députés élus. Maintenant, comment ces gens-là, il y aurait une liste qui identifie les gens, les personnes qui seraient sur cette liste-là, quel parti les identifie et comment c'est choisi. C'est assez complexe, Robert. C'est complexe pour tout le monde de le comprendre. C'est complexe pour moi aussi. Alors, il va falloir qu'on explique davantage. On veut mettre ça en même temps que la prochaine élection. Ça sera une question référendaire qui sera inclue en même temps que votre bulletin de vote. Voulez-vous changer votre mode de scrutin? Alors, moi, en tout cas, partout où on a essayé ça, ça n'a pas passé. Les gens ont choisi de maintenir la règle qu'ils connaissaient, la façon de faire qu'ils connaissaient, le statu quo, plutôt que d'aller vers quelque chose qui est difficile à comprendre, qui est complexe, puis que on a ça en Europe, c'est vrai, mais c'est pas nécessairement mieux, puis ça donne place à beaucoup, beaucoup de gouvernements de coalition, des gouvernements minoritaires qui sont obligés de faire des alliances pour gouverner. Fait que la formule n'est pas nécessairement idéale non plus pour le Québec.
Mais,
on pas sûr qu'ils vont aller loin avec ça.
On pourrait pas laisser ça comme c'est là actuellement, mais ajouter peut-être des représentants selon le nombre de votes que tu as recueillis au total. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, si tu as, exemple, tu sais, on continue, on a 125 députés qui sont élus dans les comtés comme on les connaît maintenant, puis après ça, tu prends la proportion des votes pour chacun des partis, puis là, tu nommes des... Ce serait plus simple comme ça. Fait qu'au lieu d'être 125, on aurait 135, mettons. Hein?
Oui.
Et on pourrait équilibrer les choses de cette façon-là.
Bien, ça peut être regardé parce que là, ce qu'elle propose, là, la ministre de la Justice, écoute, Montréal, la région de Montréal perd des sièges, la région de Québec et la région de la Montérégie perd des sièges, puis c'est des régions comme la Mauricie, centre du Québec et l'Outaouais qui en gagnent. Alors, tout de suite en partant, Robert, faut pas penser que les gens de Montréal, de Québec puis de la Montérégie vont se laisser faire, vont accepter de perdre des sièges, de la représentation. Alors, eux, ils ont pour dire, bien, c'est vrai qu'on a plus de représentants à l'Assemblée nationale, mais on est beaucoup de monde, on est beaucoup plus de monde que dans les régions. Alors, le vote d'un citoyen de Montréal doit avoir la même valeur qu'un vote d'un citoyen en région. Alors que dans un proportionnel corrigé, comme ils le font, cet équilibre-là n'est pas toujours respecté.